Nouvelle de Dino Buzzati. Le veston ensorcelé. Bien que j'apprécie l'élégance vestimentaire, je ne fais guère attention habituellement à la perfection plus ou moins grande avec laquelle sont coupés les complets de mes semblables. Un soir pourtant, lors d'une réception dans une maison de Milan, je fis la connaissance d'un homme qui paraissait avoir la quarantaine et qui resplendissait littéralement à cause de la beauté linéaire, pure, absolue de son vêtement. Je ne savais pas qui c'était, je le rencontrais pour la première fois, et pendant la présentation, comme cela arrive toujours, il m'avait été impossible d'en comprendre le nom. Mais à un certain moment de la soirée, je me trouvais près de lui et nous commençâmes à bavarder. Il semblait être un homme poli et fort civil, avec toutefois un soupçon de tristesse, avec une familiarité peut-être exagérée, si seulement Dieu m'en avait préservé. Je lui fis compliment pour son élégance, et j'osai même lui demander qui était son tailleur. L'homme eut un curieux petit sourire, comme s'il s'était attendu à cette question. « Presque personne ne le connaît, dit-il, et pourtant c'est un grand maître. Mais il ne travaille que lorsque ça lui chante, pour quelques clients seulement. De sorte que moi... »« Oh, vous pouvez essayer, vous pouvez toujours. Il s'appelle Corticella, Alfonso Corticella, rue Ferrara, au 17. » Il doit être très cher, j'imagine. Je le pense, oui, mais à vrai dire, je n'en sais rien. Ce costume, il me l'a fait il y a 3 ans et il ne m'a pas encore envoyé sa note. Corticella, rue Ferrara, au 17, vous avez dit ? Exactement, répondit l'inconnu. Et il me planta là pour se mêler à un autre groupe. Au 17 de la rue Ferrara, je trouvais une maison comme tant d'autres et le logis d'Alfonso Corticella ressemblait à celui des autres tailleurs. Il vint en personne m'ouvrir la porte. C'était un petit vieillard aux cheveux noirs qui était sûrement teint. À ma grande surprise, il ne fit aucune difficulté. Au contraire, il paraissait désireux de me voir devenir son client. Je lui expliquai comment j'avais eu son adresse, je louai sa coupe et lui demandai de me faire un complet. Nous choisîmes un peignet gris, puis il prit mes mesures et s'offrit de venir pour l'essayage chez moi. Je lui demandai son prix. « Cela ne pressait pas, me répondit-il. Nous nous mettrions toujours d'accord. » Quel homme sympathique, pensais-je tout d'abord. Et pourtant, plus tard, comme je rentrais chez moi, je m'aperçus que le petit vieux m'avait produit un malaise, peut-être à cause de ses sourires trop insistants et trop doucereux. En somme, je n'avais aucune envie de le revoir. Mais désormais, le complet était commandé, et quelques 20 jours plus tard, il était prêt. Quand on me le livra, je l'essayai pour quelques secondes devant mon miroir. C'était un chef-d'œuvre. Mais je ne sais trop pourquoi, peut-être à cause du souvenir du déplaisant petit vieux, je n'avais aucune envie de le porter. Et les semaines passèrent avant que je me décide. Ce jour-là, je m'en souviendrai toujours. C'était un mardi d'avril et il pleuvait. Quand j'eus passé mon complet, pantalon, gilet et veston, je constatai avec plaisir qu'il ne me tiraillait pas et ne me gênait pas aux entournures comme le font toujours les vêtements neufs. Et pourtant, il tombait à la perfection. Par habitude, je ne mets rien dans la poche droite de mon veston. Mes papiers, je les place dans la poche gauche. Ce qui explique pourquoi ce n'est que 2 heures plus tard, au bureau, en glissant par hasard ma main dans la poche droite, que je m'aperçus qu'il y avait un papier dedans. Peut-être la note du tailleur ? Non. C'était un billet de 10 000 lires. Je restais interdit. Ce n'était certes pas moi qui l'y avais mis. D'autre part, il était absurde de penser à une plaisanterie du tailleur Corticella. Encore moins à un cadeau de ma femme de ménage, la seule personne qui avait eu l'occasion de s'approcher du complet après le tailleur. Est-ce que ce serait un billet de la Sainte Farce ? Je le regardais à contre-jour, je le comparais à d'autres. Plus authentique que lui, c'était impossible. L'unique explication, une distraction de Corticella. Peut-être qu'un client était venu lui verser un acompte. À ce moment-là, il n'avait pas son portefeuille et pour ne pas laisser traîner le billet, il l'avait glissé dans mon veston pendu à un cintre. Ce sont des choses qui peuvent arriver. J'écrasai la sonnette pour appeler ma secrétaire. J'allais écrire un mot à Corticella et lui restituer cet argent qui n'était pas à moi. Mais à ce moment, et je ne saurais en expliquer la raison, je glissai de nouveau la main dans ma poche. « Qu'avez-vous, monsieur ? Vous ne vous sentez pas bien ?» me demanda la secrétaire qui entrait alors. J'avais dû pâlir comme la mort. Dans la poche, mes doigts avaient rencontré les bords d'un morceau de papier qui n'y était pas quelques instants avant. « Non, non, ce n'est rien, dis-je. Un léger vertige. Ça m'arrive parfois depuis quelque temps. Sans doute un peu de fatigue. Vous pouvez aller, mon petit. J'avais à vous dicter une lettre, mais nous le ferons plus tard. Ce n'est qu'une fois la secrétaire sortie que j'osai extirper la feuille de ma poche. C'était un autre billet de 10 000 lires. Alors, je fis une troisième tentative. Et un troisième billet sortit.